Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du week-end. Au programme aujourd'hui de l'improvisation et de l'exil. Denisa Tomanova revient tout d'abord sur la première édition du festival Impro Prague, consacré comme son nom l'indique au théâtre d'improvisation. Dans ses rencontres littéraires, Václav Richter s'intéresse lui dans quelques minutes à la première biographie réalisée sur un écrivain très important, longtemps contraint à l'exil, Pavel Tigrid. Bonne écoute à tous et à toutes. La première édition du festival Impro Prague a réuni plusieurs compagnies européennes d'improvisation au théâtre Švandovo Divadlo du 31 octobre au 2 novembre dernier. Aux côtés d'ensembles tchèques, trois compagnies étrangères sont montées sur scène. Le Théâtre im Bahnhof de Graz en Autriche, la Quicksilver Production de Belgique et les Filaments de Paris. Et c'est précisément cette troupe de cinq improvisateurs que Denisa Tomanova a rencontré après les mystères du grenier, son spectacle improvisé en anglais qui a fait rire la salle entière. Les filaments, ce sont Nabla, Garo, Muriel, Jean-Michel et Marie. Ensemble, ils nous racontent avec humour les péripéties de la passion qui les a réunis, l'improvisation.
Culture sans frontières.
Les filaments, comment ils se sont créés?
Ah, bah, la communauté de l'impro à Paris fait qu'on se rencontre et on était chacun dans des spectacles et on s'est croisés comme ça en allant voir les spectacles les uns des autres. Finalement, bah, on s'est bien aimés. Enfin, je crois qu'on peut le dire.
Je crois qu'on peut le dire.
Ouais,
dire.
Ouais, finalement. Jusqu'à maintenant. Ouais, jusqu'à maintenant, ça se passe bien.
Et, maintenant.
Et sans pour autant lâcher et arrêter nos autres spectacles, on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Comme l'idée est venue un petit peu comme ça, comme quand on allume une ampoule et ça éclaire tout de suite. Voilà, l'image de l'ampoule qui s'éclaire quand on a une idée, ben on s'est dit tiens, pourquoi pas les filaments.
Et comment vous êtes arrivé en fait à l'improvisation?
Mais du coup, on a tous une histoire différente, je pense. Ça fait une dizaine d'années que j'ai fait de l'impro. Et alors justement, il y a 10 ans à peu près, en fait, j'ai assisté à un spectacle d'improvisation, mais complètement par hasard, en suivant quelqu'un qui y allait, qui lui avait déjà fait de l'impro. Et à la fin, il est parti parler à ce super-héros qui avait fait un spectacle, en disant ah, « j'aimerais bien m'entraîner avec vous ». Puis Nabla aussi. Alors franchement, je voulais pas. Mais j'y étais quand même. Et c'était pas facile, vraiment pas facile. La première séance, c'était horrible, donc j'avais prévu d'arrêter. Sauf que la deuxième séance, il n'y en avait pas. C'était un spectacle. Et comme il leur manquait un joueur, ils ont demandé à mon pote, qui a dit « Ah non, moi je peux pas, mais Nabla, il veut bien. » Et donc, je suis monté sur scène au bout de 2 semaines d'impro. Ça s'est plutôt très mal passé. Sauf la dernière scène où j'étais tellement énervé contre moi-même d'être nul que j'ai donné plein d'énergie dans la dernière scène qui a bien marché. Et comme j'ai eu des applaudissements, même 3, hein, et ben, ça m'a donné un virus que j'ai jamais pu lâcher. J'ai toujours recherché d'autres applaudissements. Ça a mis du temps à comprendre pourquoi on en avait, mais maintenant que j'ai compris, c'est génial. Le virus est pris maintenant. Je suis rempli d'impro là, partout. Je ne peux plus m'arrêter. J'ai commencé vraiment par hasard.
Alors, quand on dit improvisation, donc, tout le monde s'imagine que c'est, disons, tout improvisé. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une méthode derrière?
Il y a un milliard de méthodes.
Et en fait, c'est un peu groupes, comme... moi, j'aime bien comparer à la musique. La musique, il faut apprendre les notes, il faut apprendre le solfège. Mais ensuite, on peut improviser de la musique. C'est juste qu'il faut connaître les codes, il faut connaître le langage qu'on utilise. Bah, en impro, c'est pareil. Il y a des notes. On apprend la rythmique. On apprend à lire... on apprend le solfège de l'impro. Et ensuite, on a une page vierge et on improvise la musique ensemble. Donc c'est un peu comme l'improvisation musicale, sauf que c'est avec les mots et le corps.
Voilà, finalement c'est une discipline aussi, artistique. Donc comme toute discipline, il faut faire ses gammes tous les jours. C'est pas des répétitions, c'est des entraînements du coup, puisqu'il n'y a rien à répéter. À part tous ces codes, comme disait Mumu, qui font qu'à plusieurs... Alors qu'on n'a rien décidé à l'avance, on va pouvoir se comprendre, accepter ce que disent les uns les autres et surtout utiliser ce que disent les uns les autres pour créer quelque chose, un pas de plus, une nouvelle brique dans cette histoire. Et voilà, quand on a posé notre brique, l'autre en face va pouvoir se dire « Ah ouais, génial, merci pour cette brique, je vais pouvoir poser la mienne maintenant dessus. » Et on avance comme ça, petit à petit, les histoires se construisent. Et oui, c'est du travail.
Et alors justement, comment vous préparez-vous avant les représentations?
Avant le spectacle, on se connaît.
Juste avant, oui, voilà. Ouais, il faut être ensemble, s'écouter, et on se met en énergie. Un peu comme... c'est un peu comme un sport aussi.
On ne dit pas des répétitions, on dit des entraînements. Et donc, avant un spectacle, on s'échauffe. Comme un gymnaste s'échauffe avant d'aller faire son truc.
Alors on va s'échauffer physiquement, donc on va s'échauffer notre voix. Voix,
se mettre en écoute les uns
avec les autres. Le cerveau qu'on déconnecte en fait, on échauffe notre cerveau pour qu'il soit ouvert, et qu'on sorte de cette fermeture qu'on a dans toute dans la journée où on vit notre vie et on est connecté à tout ce qui se passe, etc. Et là qu'on va arriver sur scène, comme tout peut arriver, qu'on soit libre de tout et qu'on se purge de toutes les choses négatives qu'on peut avoir en tête pour prendre tout ce qui va nous arriver de manière positive et pouvoir jouer avec, quoi.
Et les ententes entre vous, vous entendez toujours bien ou
Non.
Comment ça se passe?
Heureusement.
Alors l'improvisation, c'est comme le Scrabble. J'ai pas la suite.
Quelqu'un a rebondi sur cette brique. C'est une grosse brique, là. Hein.
Ça part par un bam.
On est des êtres humains. On partage une passion, donc... Il y a au moins ça qui fait que même si parfois on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, on travaille quand même ensemble. Et on le fait avec plaisir. Ouais. On est quand même content de se revoir. On est quand même content de retravailler ensemble. On a très envie de rejouer ensemble.
À chaque choix.
Jusqu'à aujourd'hui en tout cas.
Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas forcément des amis. Enfin, on n'est pas obligé d'être amis pour faire de l'improvisation. L'important, c'est que comme disait Muriel, il faut qu'on ait le même langage. Il faut qu'on ait envie de travailler avec l'autre, juste pendant une heure et demie peut-être. Mais pendant qu'on travaille, on travaille ensemble. Après, le reste de la vie, on a de la chance, on s'aime bien, mais on pourrait se détester et quand même travailler ensemble et faire des bons spectacles.
Et on en connaît d'ailleurs.
On en connaît.
Qui détestent et qui font des bons spectacles.
Question de travail, est-ce que c'est un travail à un temps plein?
Ça dépend qui.
Pas pour tout le monde. Il y en a qui ont un job qu'on qualifie de normal.
Qui ont un vrai job.
Il y en a qui ont un vrai job.
Hein, qualifié de standard, on va dire, plus que de normal. Et qui font ça plus par plaisir, et même si ça prend énormément de temps dans nos vies. Puis il y en a qui font ça de manière très professionnelle et à temps plein.
Ça prend beaucoup de temps dans leur vie aussi.
Concrètement, Nabla et Garo sont professionnels, et Muriel, Jean-Mi et moi, non.
Oui, enfin, professionnel dans le sens où on va dire que notre revenu vient de l'activité de l'improvisation, ce qui ne veut pas dire uniquement de la scène, ce qui veut dire dispenser des ateliers d'impro pour des élèves qui veulent apprendre l'improvisation, comme pour des ateliers qu'on peut donner dans des entreprises. Voilà, team building de base, ou des choses un petit peu plus ciblées pour des commerciaux, par exemple.
De la négociation, du management. N'importe quelle situation où deux personnes doivent se parler ensemble, l'improvisation a des choses à apprendre, à enseigner. Des choses à apprendre aussi. Mais au moins des choses à enseigner.
Alors, pour ceux qui... Enfin, pour les personnes...
Normal.
Pour ceux qui nous écouteraient, ce serait, disons, un peu quelque chose d'abstrait. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur scène quand les lumières s'éteignent et que vous êtes sur scène? Alors, qu'est-ce qui se passe
Alors, du coup, le principe du spectacle est... Le spectacle s'appelle Les Mystères du Grenier. Ici, ça s'appelait The Mysteries of the Attic. Parce que, voilà, on sait le faire en anglais aussi. On sait traduire un titre en anglais. Globalement, ce sont cinq amis qui vont en vacances dans une maison qu'ils ont louée et qui, dans le grenier, trouvent une malle. Et à l'intérieur de la malle se trouvent des objets. Ces objets, en vrai, sont ramenés par le public. Pas ici, parce qu'on avait du mal à organiser, donc c'est les organisateurs qui ramènent des objets, même si on les avait pas vus. Et quand le public ramène des objets, on les voit pas non plus. Et du coup, pendant le spectacle, on ouvre cette malle, on prend un objet qu'on ne connaissait pas avant, on raconte à quoi ça nous fait penser en une phrase. La lumière s'éteint, et quand la lumière se rallume, une scène d'improvisation commence, inspirée par la suggestion de l'objet. Donc c'est une suite de scènes courtes, plus ou moins courtes. Ça va de 15 secondes à 12 ou 15 minutes, voilà. Où on commence vierge avec juste la suggestion qui flotte quelque part. Et nous, notre boulot, c'est de créer la situation, nos relations, les aventures qui peuvent se produire, jusqu'à ce qu'on arrive à une fin valable,
digne là, de ce nom,
digne d'une bonne fin. Et là, on fait un noir pour revenir au grenier, où on pioche un autre objet et on en fait un autre. Donc, ce qui se passe, c'est connexion entre nous, énorme pendant les scènes, parce qu'on n'a pas le choix, mais connexion aussi avec le public parce qu'on utilise les objets donnés par le public.
La vie du journaliste, écrivain et homme politique Pavel Tigrid a été une grande aventure qui continue à intriguer tous ceux qui s'intéressent à l'histoire moderne de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque. Václav Richter vous parlera maintenant d'un livre sur cet homme public et secret à la fois que lui a été consacré par l'écrivain Pavel Kosatik.
Rencontre littéraire. Bien qu'il ait passé presque toute sa vie à l'étranger, Pavel Tigrit est la personnalité incontournable de l'histoire de Tchécoslovaquie de la seconde moitié du XXe siècle. Obligé de vivre en exil, il a pourtant réussi à influencer par ses activités journalistiques la vie dans sa patrie. Exilé maudit par la presse totalitaire, il a été le cauchemar d'abord des dirigeants communistes des années 50 et puis de ceux de la période de la normalisation entre 1968 et 1989. C'est à ce grand exilé devenu vers la fin de sa vie ministre tchèque de la culture qu'est consacré le livre auquel son auteur Pavel Kosatik a donné un titre un peu énigmatique, Pavel Tigrit po prvé, Pavel Tigrit pour la première fois. En écrivant cette biographie, Pavel Kosatik cherchait à aborder la personnalité de Pavel Tigrit avec le maximum d'objectivité.
Já, kdybych tu knížku napsal před 20 lety, tak by byla úplně jiná než teď a trošku mě to.
Si j'avais écrit ce livre il y a 20 ans, il aurait été complètement différent et cela m'effraie un peu. Je ne dis pas que ce livre aurait été naïf ou tributaire de cette époque-là, et je ne dis pas non plus que Pavel Tigrid ait commis quelque chose de blâmable ou se soit rendu responsable de ce que nous sommes devenus au cours de ces 20 dernières années, mais j'ai perdu l'euphorie du début des années 1990 et je vois cette époque différemment. Il faut rendre hommage à tous ceux qui se sont battus contre le communisme, mais il me semble que la lutte contre le communisme n'est plus révélatrice en ce qui concerne nos problèmes d'aujourd'hui. Nous luttons contre les traits de caractère de gens qui, pendant une certaine période couvrant presque tout le XXe siècle, ont porté le nom du communisme. Et le fait que le communisme se soit effondré en 1989 nous incite à penser que nous sommes parvenus aujourd'hui plus loin, plus haut, et que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas vrai, et nous le voyons, nous avons retrouvé la liberté, et avec elle, des problèmes beaucoup plus compliqués sont arrivés.
Přišla svoboda, a s tou ale přišly taky mnohem složitější problémy, než byly předtím.
Pendant plus d'un demi-siècle, Pavel Tigrit a personnifié en quelque sorte l'exil tchèque. Pavel Schoenfeld, qui a pris le pseudonyme Tigrit, a émigré deux fois. Jeune homme, il quitte pour la première fois son pays en 1939, juste après l'arrivée de l'occupant nazi. Sa mère, qui est d'origine juive, reste à Prague et mourra dans un camp de concentration. Pendant la guerre, Pavel Tigrit travaille dans la section tchécoslovaque des émissions internationales de la BBC à Londres et collabore avec Jan Schramek, premier ministre du gouvernement tchèque en exil. C'est sous l'influence de ce dignitaire de l'Église catholique devenu homme politique que Pavel Tigrit se convertit au catholicisme. Après la guerre, il revient dans la Tchécoslovaquie libérée, collabore avec le Parti populaire tchécoslovaque et devient rédacteur en chef de la revue Obzoré, qui prend une position très critique vis-à-vis du communisme. C'est sur les pages de ce périodique que Pavel Tigrit s'oppose fermement aux traitements inhumains auxquels sont exposés au lendemain de la guerre les habitants tchécoslovaques d'origine allemande. En 1947, il se marie avec sa secrétaire Ivana Mishkova. Il ne sait pas encore que son deuxième exil approche rapidement. 50 ans plus tard, la personnalité et le sort de cet éternel exilé éveilleront l'intérêt de l'écrivain Pavel Kossatik, auteur des biographies de plusieurs personnalités importantes de la politique et de la culture tchèque. Le projet d'écrire un livre sur Pavel Tigrit a longtemps mûri dans sa tête.
Je n'ai rencontré Pavel Tigrit qu'en 1998, donc relativement tard, lors du tournage d'un film documentaire sur Jan Masaryk, et il s'est longtemps entretenu avec nous. Le réalisateur du film a mis les cassettes vidéo de ses entretiens à ma disposition et je les ai souvent regardées. J'y ai perçu une profonde mélancolie de Pavel Tigrit, un vieil homme qui avait beaucoup souffert, qui avait mené beaucoup de combats et avait reçu beaucoup de coups. Et c'était cette sorte de mélancolie bien spéciale, pas comme les autres, qui m'a beaucoup impressionné. Il était un homme de la vieille école. Quand quelque chose l'agaçait, il ne le disait pas. Il appartenait à cette race d'hommes qui ne se plaignent jamais quand ils vont mal parce que cela n'apporte rien de positif. Aujourd'hui, nous nous plaignons toujours et nous n'apportons rien de positif aux autres.
Plusieurs fois dans sa vie, Pavel Tigrit a échappé à de grands périls qui le menaçaient. Lors du coup de Prague en 1948 et la prise de pouvoir dans son pays par les communistes, il est en voyage et se trouve en Allemagne. Il décide donc de s'exiler pour la deuxième fois. Sa femme le rejoindra un peu plus tard après avoir passé quelques mois dans les prisons tchécoslovaques. En 1951, Pavel Tigrit est chargé de la direction de la station américaine Europe Libre qui émet vers les pays du bloc communiste, mais ce n'est qu'un engagement de courte durée. Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, il revient en Europe et s'établit en 1960 à Paris, où il continue à publier la revue Svedectví, témoignage, fondée en 1956 en réaction à la révolution hongroise brutalement réprimée par l'Union soviétique. Sous sa direction, la revue témoignage devient le périodique le plus important de l'exil tchécoslovaque. Elle est distribuée clandestinement aussi en Tchécoslovaquie et n'arrête pas de susciter la colère des autorités communistes. Pavel Tigrit poursuivra ses activités après l'invasion des armées du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968 et les dirigeants communistes le considéreront comme le représentant le plus dangereux de l'exil tchécoslovaque. Sa revue publie entre autres les textes de Václav Havel, dramaturge dissident et futur président de la République. Outre ses activités journalistiques et politiques, Pavel Tigrit écrit également plusieurs livres dont certains sont traduits en français. Il écrit notamment « La chute irrésistible d'Alexander Dubček », ouvrage sorti aux éditions Kalman-Lévy, « Le printemps de Prague », paru aux éditions du Seuil, ou bien un essai intitulé « Amère révolution » chez Albin Michel. Nous lui devons également le livre qu'il a intitulé « Le guide d'une femme intelligente à travers son propre destin », son ouvrage le plus populaire dans lequel il retrace avec pertinence et humour l'histoire de son pays au XXe siècle. Le grand exilé ne revient dans sa patrie qu'après la révolution de velours et la chute du régime arbitraire en 1989. Dans les années 1990, il est collaborateur et conseiller du président Václav Havel et accepte le portefeuille de ministre de la Culture dans le cabinet du premier ministre Václav Klaus. Il assumera cette fonction entre 1994 et 1996. Les dernières années de sa vie sont assombries par la maladie et il décide de hâter sa fin. Il meurt en 2003 après avoir cessé de prendre ses médicaments. Pavel Kossatik attendra 10 ans avant de publier sa biographie.
Kdybych tu knížku psal v roce 1993, dejme tomu, tak bych viděl v Pavlu Tigridovi vítěze nad dějinami.
Si j'avais écrit ce livre, par exemple, en 1993, j'aurais considéré Pavel Tigrid comme l'homme qui a vaincu l'histoire. Aujourd'hui, je ne le pense ni de Pavel Tigrid, ni de Václav Havel, ni de moi-même. À vrai dire, je ne le pense de personne. Et je trouve que cela a plus d'intérêt. Je ne veux pas mettre en cause les mérites de quelqu'un, non, mais les itinéraires de tous ces gens sont plus complexes et je l'espère aussi plus intéressants.
To ne, jenom ty příběhy jsou složitější a já teda doufám, že zajímavější taky.
Le livre de Pavel Kosatik évoque donc non seulement les grands moments de la biographie de Pavel Tigrid, son courage, sa persévérance, sa fidélité aux principes démocratiques, mais ne cache pas non plus ses actes discutables et les traits controversés de sa personnalité. Il parle donc du conflit qui a opposé Pavel Tigrid à un autre grand représentant de l'exil tchécoslovaque, Ferdinand Peroutka, et n'omet pas de mentionner le fait que les activités et l'existence même de la revue Témoignages n'ont été probablement possibles que grâce au soutien de la CIA. Il évoque aussi l'engagement de Pavel Tigrid dans la haute politique et les mesures très critiquées qu'il a prises au poste de ministre de la Culture dans les années 1990. Le livre nous fait donc découvrir un grand démocrate qui s'est retrouvé au milieu des conflits de son siècle et qui a eu le courage et l'intelligence nécessaires pour ne pas se laisser broyer par les rouages de l'histoire, mais n'a pas échappé à des fautes et des erreurs. Et Pavel Kosatik espère qu'il y aura aussi d'autres auteurs qui tâcheront de cerner l'importance de cette personnalité complexe.
Jmenuje se Tigrid Čárka poprvé a tím nechci říct, že jsem frajer, který...
Le livre s'appelle Tigrid, virgule, poprvé, Tigrid, virgule, pour la première fois, et je ne veux pas dire par là que je viens d'écrire mon premier livre. Mais dans ce cas, il faudra parler de ce même sujet encore une deuxième, une troisième, une quatrième et une énième fois, parce que je crois que c'est un sujet qui mérite une vue panoramique. Il n'y a toujours pas assez de livres sur l'histoire moderne. Quand le lecteur désire se faire une idée sur tel ou tel problème, il a besoin de lire plusieurs livres pour pouvoir confronter différents points de vue, et souvent il manque de sources. C'est donc cela que j'avais à l'esprit quand j'ai donné ce titre à mon livre.
C'était les rencontres littéraires de Václav Richter qui vous proposait de découvrir la première biographie consacrée à Pavel Tigrid. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy!